France Musique.
Merci beaucoup Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour un nouveau Classic Club.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans Le Cri du Patchwork, une émission qui bouscule les oreilles. Deuxième étape de notre thématique du moment, l'instant. Ce moment impalpable où se fait la musique, le son. Après avoir reçu Andrew Guerceau la semaine dernière pour parler des musiques électroniques en temps réel, nous partons à la rencontre de Michael Pizarro, compositeur d'une musique expérimentale faite d'écoute, de silence et de propositions pour que les interprètes créent eux-mêmes ces instants de rencontre, de musique. Une musique ouverte qui était à l'honneur le 15 février dernier à la Générale, à Paris, pour un concert unique réunissant Aum Grand Ensemble de Julien Ponvienne et l'ensemble Dédalus de Didier Achour. L'occasion de leur demander ce que cette musique d'un instant ineffable a pu leur apporter dans leur parcours d'interprète. Et comme chaque mardi, un son découpé à la truelle. Le Cri du Patchwork, thème numéro 25, épisode numéro 2, séquence numéro 1.
Hé hey, qu'est-ce que vous avez fait encore?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. Le sifflet. Je parle du sifflet d'arbitre, celui qui perce les tympans doté d'une petite bille qui tourne sous l'action de l'air insufflé à l'intérieur du dit sifflet. L'utilisation du sifflet est bien entendu associée à la réjouissance et à la fête. Pensez aux nombreux sifflets lors de commémorations nationales, par exemple. En voici une forme intime. Star Spangled Étude de Raphaël Mostel pour piano joué, sifflet et objet sonore. Une autre manière de fêter l'hymne national américain. Le sifflet est souvent le son qui fait stopper toute activité. Pensez au sifflet qui permettait, fut un temps, de rappeler les élèves des écoles lors de la récréation. Ou bien, tout simplement, le sifflet de l'arbitre qui, en un instant, coupe court au match en train de se dérouler.
We are now going to switch over for a few moments to the football match being played today between Blackburn Spurs and Chelsea Rovers. On the ball, Jimmy. The best centre-forward in the league is Jimmy. He ain't a patch on ours. We give 25,000 for him. Ain't 25,000 what? Why, coupons, that's what it is.
Come here. Hey, get him. Hey. Come on there. Bond. Shoot.
Go!
Football, football, sends them up the pole. You'll hear the gentle voices howling. Bond. Shoot. Go!
Albert Whelan, chanteur comique australien du début du siècle, construisant un univers sonore propre à suggérer le match de foot. Charles Ives, pour son Yale Princeton Football Game de 1898, a ainsi écrit une œuvre retraçant cette rencontre footballistique entre deux universités fameuses. Bien que la partition mentionne l'utilisation d'un sifflet, je n'ai pas trouvé de version intégrant l'instrument bruyant. Mais on entend dans la partition des flûtes piccolo qui tentent d'imiter le roulement du sifflet d'arbitre dans un fatras digne de Charles Ives. L'image de ce sifflet d'arbitre a été alors maintes fois reprise pour signifier les bornes à ne pas dépasser, si l'on veut. Comme dans Blow the Whistle du rappeur Too Short en 2006, où le pionnier des rappeurs de la West Coast dit à ses concurrents d'arrêter de marcher sur ses plates-bandes. En gros, bitch. Where you get that from? Where the mic spit one? Let me that MC8 ball and MJG. Keep spitting that D to the IMP. Bun B, that's Texas, baby. Ballin' G, that's Memphis, baby. Short dog, that's Oakland, baby. Ain't nothing but pimpin' these days, G. My C got locked up, but these real still know they got some. Give a what you say. Short dog with UGK. Do you really wanna be like me? Spit game like Snoop and T.I.P. Pretty girls in the VIP. They came with Dre. They don't need ID. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Blow the whistle. Your mind is gone. This blaze, you've been wide awake for the last 3 days. It goes down for real. Don't stop. Just keep rolling downhill. Le sifflet utilisé comme un sample régulier et rythmique. Alors qu'au départ, le sifflet est plus un son anarchique, libre et tonitruant. Jacques Ibert, déjà en 1927, utilise des sifflets de police et d'arbitre pour clore son divertissement pour orchestre, dans une sorte de cavatine exubérante où les ponctuations de sifflets n'arrangent rien du tout. Le sifflet est en effet souvent l'expression sonore d'un trop-plein, d'un climax difficile à digérer. Et lorsqu'on ajoute un sifflet d'arbitre, c'est vraiment pour dire stop. Dans Voices, compilation de plusieurs chants de Hans Werner Henze, le compositeur réunit des textes politiquement engagés contre l'oppression et l'aliénation. Et évidemment, lorsque retentit le sifflet insistant et strident, c'est bien pour signifier ce débordement émotionnel et insupportable que traduit la musique en accumulation. Und aus Zeitungen raus springen Schlagwörter, treiben Beamte in Schweiß.
Finger in ich und knüppel jetzt. Seh nach dem Recht. Schöne Pauken auf das Pult. Auf offenem Markt, die noch offenen Kämpfe. Maurer und Händler auf LKWs, streuen Proklamationen.
Todos en la plaza, hoy mismo.
Und solch ein
Mais parfois, il suffit d'un seul coup de sifflet. Bien placé, bien dosé. À nu, on pourrait dire. En tout cas, comme le demande Gheorghi Ligeti dans Mysteries of the Grand Macabre, une réduction de son chef-d'œuvre opératique, ici dans une version pour trompette et ensemble. Et attention, ce sifflet est furtif, mais si essentiel.
As we can.
Je ne sais pas si l'enchaînement entre Ligeti et The Underdog Project était du meilleur goût, mais bon. Ce qui m'a frappé dans ce Summer Jam, tube de l'été 2003, c'est de voir comment ce sifflet intempestif est sous-mixé. Car en réalité, le sifflet est utilisé pour justement passer au-dessus de tous les autres instruments, ou d'une foule hurlante. La preuve avec Kraft de Magnus Lindberg, qui s'ouvre avec un sifflet hurlant sur une masse percussive tonitruante. D'ailleurs, c'est le chef d'orchestre lui-même qui l'utilise, comme une forme d'arbitrage de cette œuvre ô combien sportive s'il en est. Il est fréquent de voir des sifflets devenir l'arbitre, le chef de tout un ensemble de percussions, comme dans les batucada et la samba brésilienne. Le chef de l'ensemble utilise un sifflet à trois sons, nommé apito, une sorte de sifflet d'arbitre augmenté, permettant de dessiner des mélodies et, bien souvent, utilisé aussi comme instrument rythmique. Herto Moreira, virtuose brésilien qui a côtoyé toute la scène du jazz-rock des années 70 et 80, en donne un bon exemple, mais tout seul. Il fait tout à la fois grâce au pandero, forme de tambourin à cymbalette, et au sifflet. Une mini batucada à lui tout seul. Autre manière de voir la musique brésilienne, la samba des sifflets d'André Verschuren, où on se demande bien quels sifflets ils ont utilisés. En tout cas, pas des sifflets brésiliens, peut-être de petites flûtes, que sais-je. Du coup, c'est moins incisif, ça groove beaucoup moins, c'est sûr. L'apito de la samba est un des rares sifflets à avoir des semblants de solo. Et pourtant, en voici un exemple assez étonnant. Une sorte de dialogue entre un violon soliste et des sifflets d'arbitre qui viennent interférer dans sa cadence. Dans sa symphonie Metropolis de 1988, inspirée par les personnages de Superman, Michael Doherty intègre dans son premier mouvement, intitulé Lex, quatre sifflets d'arbitre disposés à quatre endroits différents sur scène, comme une forme d'image sonore de l'oppression, de l'enfermement, de cette loi qui ne cesse de rappeler à l'ordre le super méchant Lex Luthor. Et puis, l'effet est inédit. Petit moment suspendu pour violon et sifflet. Thank you.
Vous voyez qu'on y arrive. Hein, c'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Michael Pizarro, vous êtes compositeur, guitariste et membre du Vandalweiser, un groupe de compositeurs qu'on pourrait dire de la musique expérimentale. Et là, aujourd'hui, vous étiez en répétition avec deux ensembles qui sont réunis. C'est l'ensemble des Dalus, dirigé par Didier Achour, et puis l'ensemble, enfin, la Home Grand Ensemble, dirigé par Julien Ponvienne. Une rencontre qui pose plein de questions. Et moi, j'ai d'abord une bonne question par rapport à cette musique expérimentale. C'est quand vous, vous composez, est-ce que c'est créer des possibles?
Yes, it has to do with the... Experimental music has to do with creating.
Oui, la musique expérimentale, c'est quelque part créer des potentialités en vue de réalisation au sein d'un ensemble. Vous composez d'une manière à avoir des attentes. Mais ces attentes seront toujours comblées différemment par l'ensemble. Et c'était l'objet de la répétition d'aujourd'hui. Parce qu'évidemment, ce soir, le concert sera complètement différent. Et à chaque fois, enfin, complètement en tout cas, vous avez un cadre. Vous créez des cadres qui sont des temps. On a vu les musiciens tous appuyer sur un chronomètre en même temps, se donner un cadre temporel. Et à l'intérieur, tout est possible. Et pourtant, il y a quand même un déroulé, un chemin. Est-ce que pour vous, finalement, ce chemin de son que vous allez créer avec ces musiciens, c'est autant de petits instants qui sont collés les uns aux autres et qui coïncident, qui se rencontrent?
Alors
c'est un cas où ce sera potentiellement un peu différent à chaque fois. Mais comme vous l'avez dit, les éléments musicaux sont toujours les mêmes. Mais la mise en lumière de ces éléments ne pourra jamais être la même. Quand vous parlez de ces instants individuels, en réalité, ils ne sont pas produits par les musiciens. Ils arrivent à un instant, simplement.
It just happened. C'est-à-dire, ça va arriver. La musique n'est pas en tant que telle. C'est-à-dire, on peut pas dire qu'il y a de la musique à un moment donné. C'est la musique qui va arriver. Pour vous, il y a cette idée que quelque chose va se passer. It will happen.
Yeah, that's a, so this idea of the happening is that,
cette idée que quelque chose se produit. Dans la musique soi-disant normale, vous créez une situation où tout le monde doit jouer au même moment. Un accord, par exemple. Mais en fait, ça n'arrive jamais. Quand vous ne demandez pas à être synchronisé, parfois cela arrive quand même. D'une certaine manière, vous avez plus de précision quand les musiciens écoutent et cherchent leur propre solution que lorsque vous cherchez à ce que tout soit cadré et synchronisé.
Didier Chaud, vous êtes guitariste et directeur artistique de l'ensemble des Dalus. Vous connaissez le travail de Michael Pizarro depuis des années. Vous avez interprété avec l'ensemble énormément de ses pièces. Et là, vous avez réalisé un disque ensemble avec Stéphane Garin à la percussion. Un trio dans, sur le label Potlatch, qui est un peu une nouveauté, et puis dans laquelle on retrouve un peu les, tout ce qui fait la musique de Michael Pizarro, c'est-à-dire ces clouds, comme il appelle ça, des nuages, dans lesquels on voit se balader vos trois instruments, vos trois timbres qui n'arrêtent pas de se rencontrer. En tant que musicien qui vient à la fois de l'écrit et de l'improvisation, est-ce que pour vous, jouer la musique de Michael, c'est prendre chaque note, chaque décision comme un instant qui va s'inscrire dans un devenir ?
Certes. Contrairement, je reprends l'expression de Michael à la musique normale, en fait, il y a une autre lecture de la partition qui est plus à réaliser et à réaliser en commun, en fait, avec ceux qui sont présents sur le moment. C'est ce qui fait un peu la différence. En général, on s'attache à, on a une culture de l'écrit où on interprète, il y a presque un travail comme ça très précis, très pointilleux. Là, en fait, la partition est un point de départ à une expérience sonore hein, qui se concrétise dans l'instant, en fait. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt de la musique expérimentale et en particulier de celle de Michael.
Est-ce qu'on n'a quand même pas des fois l'envie de refaire ce qu'on a fait en répétition ? C'est-à-dire que là, par exemple, moi qui l'ai vécu de plein pied, la répétition, j'ai entendu des moments magiques qui sont créés. Est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver ça ? Ou est-ce que ce serait peut-être l'écueil de ces musiques-là, de se dire « j'aimerais retrouver ce qu'on a réussi à créer » alors que non, il faut laisser passer ?
Ouais, je pense qu'on, enfin, on n'a pas envie justement de reproduire ça, absolument pas. Même si, voilà, en fait, le plaisir, il a eu lieu à ce moment-là, à certains endroits. Ce soir, il aura lieu à d'autres endroits ou même ou pas, mais c'est vraiment tout l'intérêt de cette musique. Non, il y a vraiment pas la tentation de reproduire, mais de retraverser en fait l'œuvre et pour voir autre chose. C'est comme un chemin en fait qu'on a trouvé très très beau, mais on a envie de regarder ailleurs la deuxième fois où on le prend, peut-être aussi au même endroit à certains endroits, mais il y a vraiment quelque chose comme ça de l'aventure aussi. Et si on n'a pas ça, je pense qu'on est déçu.
Stéphane Garin, vous êtes percussionniste de l'ensemble des Dalus, et puis vous avez participé à ce trio avec Michael Pizarro et Didier Achour. Le disque, finalement, c'est un peu aller à l'encontre de cette idée de refaire à chaque fois quelque chose de nouveau. Vous avez fixé sur une galette, un disque, une interprétation de l'œuvre de Michael Pizarro. Est-ce qu'il y a une forme de frustration à se dire, tiens, on va choisir cette version-là et pas une autre ?
Non. Non, je suis très content d'avoir gravé cette version, comme ça je peux me la réécouter chez moi. Non, je ne sais pas si ça va à l'encontre. Il y a beaucoup de musiques qui s'inscrivent dans le même cadre que Michael, et beaucoup de disques qui sortent avec ces musiques-là. C'est juste une version. Ce qui était assez excitant, c'est qu'on a enregistré deux pièces qui n'avaient pas été enregistrées auparavant. Don't Ground in Cloud, qui était une pièce extrêmement récente, probablement, je crois que écrite en août 2015 ou quelque chose comme ça. Et on l'a travaillé en mai 2016, si je me plante pas. Ensuite, voilà, on en donne une version, on en grave une version. Puis la musique de Michael va continuer à vivre avec d'autres trios et d'autres ensembles. Voilà.
Mais enfin, Didier Achour.
Si je peux me permettre d'ajouter, la pièce Grounded Cloud a été vraiment modifiée pendant l'enregistrement par Michael. C'est vraiment une pièce qui en fait, il a fait vraiment une autre version à l'issue de l'enregistrement. C'est pas du tout la même pièce. Justement, c'est né du travail vivant en fait de l'enregistrement. On n'a pas mis les micros et essayé de faire exactement ce qui était écrit, mais vraiment on a travaillé ensemble sur la musique elle-même et on a enregistré le résultat de ça. Sûrement que si on l'enregistrait de nouveau, on la joue autrement. Et là on va la reprendre, on va la rejouer en concert et certainement que ce sera différent.
On se souvient plus. On se souvient plus de ce qu'on a fait, Yann. Donc on va forcément jouer différemment.
Michael Pizarro sur cette idée de se souvenir d'une interprétation, de cette mémoire qui peut rester dans cette musique. Quand vous, vous fixez une interprétation finalement avec le disque ou bien dans un concert, est-ce que vous, vous avez l'habitude de réécouter pour pouvoir avoir un jugement sur ce résultat? Ou est-ce que le résultat finalement est secondaire dans votre démarche et que c'est plutôt le processus qui amène au résultat qui vous intéresse?
Yeah, on the one hand, you have something that appears fixed.
D'un côté, vous avez quelque chose qui paraît figé, parce que vous avez sélectionné une seule version. Mais d'autre part, il y a deux choses. La première est que si vous tentez d'écouter cette version deux fois de la même manière, je pense que ce n'est pas possible. Dans le cas de Hearing Metal 4, présent dans notre disque, la densité des événements est tellement élevée que même si je l'écoute 100 fois, je ne pourrais pas me rappeler de tout ce qui se passe dans cette œuvre. L'autre chose est que l'écoute de l'environnement sonore joue un rôle. Spécialement dans Grounded Cloud, où il y a énormément de silence et de moments calmes, avec des événements oscillant entre l'audible et l'inaudible. Cela veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un diffusera le disque chez lui, ce sera toujours différent. En réalité, je pense que rien ne peut être figé. Là, ça me rappelle un peu l'expérience que j'ai eue aujourd'hui. Nous sommes à la Générale, donc nous sommes dans Paris, pas loin d'une avenue, l'avenue Parmentier, et puis une pièce magnifique qui s'appelle Asleep, Forest, Melody, Passe. Donc vraiment endormi, la forêt, la mélodie et le chemin. Et pendant une heure, nous avons six solos accompagnés, ou plutôt en regard avec un paysage sonore, un field recording qui est vraiment diffusé sur les enceintes. Et puis on entendait cette avenue qui n'arrête pas de passer à côté de nous. Et finalement, est-ce que ça, pour vous, c'est une manière de placer votre œuvre dans une écoute qui serait différente à chaque fois? C'est-à-dire que là, on a les rues parisiennes, et si on la déplaçait ailleurs, ce serait autre chose. Donc finalement, le bruit n'est pas gênant pour écouter votre pièce.
Because, in a space like this, you're always hearing the environment.
Oui, parce que dans des lieux comme celui-ci, vous entendez tout le temps l'environnement dans lequel il se trouve. Ici, il y a comme un mixage entre trois choses. Dans cette œuvre, l'environnement diffusé sur les enceintes provient d'un parc dans la Caroline du Sud, un espace très calme, tel qu'on ne le retrouve sans doute pas en France. Mais nous entendons aussi le son de la Générale. Et donc, nous devons trouver le moyen d'écouter les deux en même temps dans cette œuvre. Au début, la première fois que vous écoutez les paysages sonores, vous n'entendez que cela. Mais à la fin de chaque section, vous n'écoutez plus que l'environnement sonore du lieu, de la Générale. C'est une sorte de transition d'un environnement à un autre. Et puis, vous avez les musiciens qui répondent aux paysages sonores qu'ils entendent, mais aussi à l'environnement de la Générale. Donc pour moi, c'est un vrai mixage d'espace, de lieu, créant en quelque sorte un espace unique, car ils sont tous là, au même moment.
Il y a un peu de quelque chose de ce que vous disiez dans un article qui s'appelle « It or Miss », c'est-à-dire on attrape, on frappe, ou bien on attrape, on le loupe. C'est quand même cette histoire d'instant. On a un instant, un son qui apparaît, on le prend, ou bien on ne l'attrape pas, on le laisse passer. Et je me rappelle, par exemple, Stéphane Garin, vous avoir observé, vous étiez en train de sortir un bout de carton que vous alliez frotter, puis en fait, c'était la fin des trois minutes et vous l'aviez à peine frotté, c'est passé. On l'a loupé, mais finalement, il était là, à cet endroit-là. Est-ce que finalement, c'est un jeu, tout le temps, avec ce qui peut se passer autour de nous, l'attraper comme il est, ou bien le laisser passer pour qu'il vive tout seul?
That's a universal phenomenon of listening, is that we miss as much as we catch.
En fait, c'est un phénomène universel de l'écoute. Nous loupons autant que nous saisissons. D'une certaine manière, la musique offre des guides vers ce que l'on pourrait attraper. Par exemple, lorsque vous regardez un musicien qui va s'apprêter à jouer, votre attention est dirigée vers ce qu'il pourrait jouer. Et c'est un état différent de l'écoute par rapport à notre écoute habituelle. C'est un peu comme ce que j'ai écrit dans cet essai. Est-ce que vous êtes prêt à attraper un son comme le baseballeur est prêt à frapper la balle? Et je pense que c'est une question vraiment intéressante. Comment amener les auditeurs vers un état où ils sauront que quelque chose va arriver, même s'ils ne savent pas exactement quoi? Julien Ponviane, vous êtes directeur artistique, je ne sais pas si on dit comme ça, pour le Home Grand Ensemble. En tant qu'improvisateur, le lien avec l'improvisation ici, puisque on peut improviser avec des cadres qui sont très fermés, des cadres très ouverts. Ici, on a un cadre temporel, on a des choix à faire, une trajectoire à créer à plusieurs. Est-ce que finalement, on se rapproche quand même quelque part d'une forme d'improvisation ?
Oui, oui, vraiment. Pour moi, c'est presque, c'est très proche de la musique que j'écris de toute façon, où j'écris des cadres aussi. C'est jamais totalement improvisé. C'est jamais vraiment totalement écrit. C'est toujours des cadres dans lequel il y a plus ou moins de liberté. Et la musique de Michael, elle s'interroge vraiment là-dessus. Quel cadre et quelle liberté ? C'est une question dont on est beaucoup à se poser, il me semble, aussi.
Pour des musiciens qui ont fait sans doute de conservatoire, qui ont fait le travail de l'instrument, la virtuosité au point de vue, je fais plein de notes, je donne à entendre mon instrument, le timbre en un instrument. Est-ce que c'est une nouvelle virtuosité que l'on crée à travers les œuvres comme celle de Michael Pizarro ? C'est-à-dire que tout d'un coup, soit on prévoit peut-être le son qu'on va entendre, qu'on va jouer, ou bien est-ce qu'on s'insère, on l'attrape comme il est, on essaie de le jouer comme une petite pierre précieuse qu'on prend dans sa main pour qu'il soit le plus précieux possible, ou bien c'est une virtuosité de l'écoute ? Didier Achaud.
Non, je pense qu'il n'y a pas une autre virtuosité. Je pense qu'on se débarrasse complètement de cette dimension, et c'est pour le bien de la musique, je crois.
Julien Ponviane.
Oui, on se débarrasse de cette virtuosité, mais pour autant, c'est pas une musique qui est facile à jouer, quoi. Même si je parlais de simplicité aussi juste avant, il y a quelque chose de difficile. C'est pas le mot que j'aimerais employer, mais tant pis. Dans le, il y a une sorte de maîtrise à avoir, une maîtrise de soi pour jouer le moins possible, pour essayer de maîtriser un peu les sons qu'on sort aussi. Enfin voilà, c'est une autre forme de travail et de maîtrise de l'instrument aussi, peut-être.
Stéphane Garin ?
Non, je ne saurais pas quoi dire de plus, mis à part le fait que le cheminement pour arriver à la musique de Michael, finalement, pour moi, s'est fait depuis le concert qu'on avait fait avec Dédalus, avec Jurfry, Anton Bugger, sur un disque aussi, sur Potlatch. Et finalement, aujourd'hui, je suis arrivé à jouer cette musique, comme tu dis Julien, très très simplement. Et pourtant, je crois que justement, alors le terme de virtuosité, on en parlait justement hier soir, c'est avec Michael. Et c'est vraiment un thème qui me rebute beaucoup, puisqu'on y met toujours derrière la virtuosité, la capacité de pouvoir jouer tant de notes à la minute ou à la seconde. La virtuosité de l'écoute, la virtuosité... C'est un mot assez dégueulasse, finalement, la virtuosité. Mais c'est vrai que...
C'est l'étymologique que la vertu, non ? Je sais pas. C'est moral, en fait, la virtuosité.
Thank you.
Michael Pissarro, en reprenant ce que disaient Didier Achour, Stéphane Garin, Julien Ponviane, il y a quand même cette idée que chacun fait partie d'un tout, tout le temps. On n'est jamais des individus mis en... Comment je veux dire, le solo même qu'on peut entendre dans votre musique fait partie d'un tout. Et je pense à un titre d'une de vos pièces, c'est « Mist is a collection of points ». Et donc un brouillard est vraiment une collection de points. Est-ce que dans ce qu'on vous appelait les clouds, les nuages, où on entend justement ces sons que les gens vont choisir dans un réservoir, cette idée de créer un field recording d'instruments pour ne pas avoir finalement un soliste, quelqu'un qui va jouer avec son ego pour se montrer, mais vraiment faire partie d'un tout? Cette question de l'individu et du tout est une question à laquelle je réfléchis beaucoup. Car je pense qu'il n'y a pas d'individu. D'une certaine manière, c'est une sorte de situation utopique, idéale, où il ne pourrait y avoir qu'une seule chose, alors qu'en réalité, chaque personne est déjà plusieurs choses. Donc, lorsque nous parlons de nuages, nous parlons essentiellement de nous-mêmes, en relation avec des objets et des personnes extérieures. Selon moi, nous sommes donc toujours en présence de situations où nous devons faire avec des quantités de choses différentes en même temps. Donc, il n'y a pas de un, d'unité. Mais il n'y a pas non plus de tout, il n'y a pas de totalité. Vous ne pouvez concevoir une vraie infinité, mais vous savez seulement qu'elle existe. Et pour moi, c'est à peu près ce que représente le brouillard. C'est à la fois plein de choses et très peu de choses. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous bougez à travers des situations où vous rencontrez au même moment trop de choses et dans d'autres situations où vous rencontrez très peu de choses. Et chacun commence alors à chercher à comment clarifier ce genre de situation. C'est de ça dont parlent ces pièces. Ce n'est pas rien ou quelque chose ou une chose, mais une sorte de réduction qui permet de clarifier le brouillard. Et puis, à différents moments, cela revient complètement et vous êtes en quelque sorte perdu. La première pièce que nous avons répétée, Festhalten los lassen, ce qui veut dire tenir et lâcher en allemand, c'est un peu comme ça. À chaque fois qu'il semble y avoir plein de choses, elles disparaissent et il ne reste plus rien. Presque plus rien.
Almost nothing. Et c'est toujours presque. C'est-à-dire que dans votre musique, il y a toujours le presque. Alors, on parle du presque rien, l'ineffable, chez Yankelevitch, par exemple, le presque rien, qui est très proche de votre pensée. Et puis, cette idée que on est toujours au moment d'une cassure aussi, finalement, d'un son qui pourrait lâcher, une tension qui est toujours présente, alors que finalement, on entend presque rien. Est-ce que de mettre comme ça l'interprète dans un instant suspendu, alors qu'il a un timing en tête, il a une durée, l'œuvre pour vous c'est en fait une durée, et donc dans cette durée avoir cette tension, cette sorte de, on a une élévation par la tension qui se crée, c'est pas mettre en danger finalement notre écoute aussi, parce que nous en tant qu'auditeurs on va suivre le cours, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est garder notre écoute en danger comme ça tout le temps.
C'est vraiment intéressant que vous mentionniez ce livre de Yankelevitch. Parce qu'il ne parle pas que de presque rien, il parle de je ne sais quoi. Et je pense que c'est la description exacte de l'expérience musicale qui oscille entre le je ne sais quoi, qui était presque trop plein, et le presque rien qui s'approche de rien.
Et je vais terminer par une dernière phrase qui vient de 11 Theses on the State of New Music, un article que vous avez écrit en 2004. Et il y a une phrase que j'ai vraiment retenue, c'est « The power of a performance consists of the disappearance of the work during its duration ». Donc le pouvoir d'une interprétation consiste à la disparition de l'œuvre pendant sa durée. C'est-à-dire que tout d'un coup, le processus qui est le vôtre, qui est assez reconnaissable dans l'écoute de votre musique, le processus s'efface devant une écoute, tout simplement, et donc l'instant de l'écoute.
En fait, ce que je voulais dire par là, tout d'abord, c'est que le mot « œuvre » veut dire « composition ». Et puis, il y a cette anecdote.
David Cronenberg, he was making a version of Naked Lunch.
Quand David Cronenberg a entrepris de faire une version du Festin nu, tout le monde disait que c'était impossible de faire un scénario à partir de ce roman. Mais lui l'a fait. Et il dit, un film est bon uniquement quand à la fin du film, le scénario n'a plus d'importance. C'est vraiment ce que je voulais dire au travers de cette disparition de l'œuvre. La partition est remplacée par ce qui se passe pendant l'interprétation. Mais l'autre sens de cette phrase, qui est aussi vrai, est que si nous sommes chanceux, nous oublions que nous sommes en train d'interpréter, d'expérimenter une partition, et nous nous transportons dans un autre endroit, à la fois virtuel et réel. La pièce A Sleep Forest Melody Path a été enregistrée par Pierre Favret lors du concert du 15 février dernier à la Générale à Paris, au lieu des musiques expérimentales. Merci à lui de nous l'avoir fournie. Vous pourrez retrouver la musique de Michael Pizarro dans un disque édité chez Potlatch, Resting in a Fold of the Fog, en compagnie de Didier Achour à la guitare électrique et Stéphane Garin aux percussions. Si vous voulez tenir au courant des activités de AOM Grand Ensemble de Julien Ponviane, je vous invite à aller sur le site 11h11.com. Et pour suivre l'ensemble des Daedalus, c'est daedalus.ensemble.free.fr. fin de notre deuxième épisode du Cri du Patchwork sur l'instant. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui à la technique Olivier Dupré. Merci à Flora Sternadel, toujours à l'affût du moindre son. La semaine prochaine, on continue notre balade dans l'instant en compagnie de Christine Esclapé. Musicologue et chercheuse en sémiotique musicale, elle a dirigé une série d'ouvrages édités chez l'Harmattan, intitulée « Ontologie de la création en musique ». Le volume 2, « Les instants en musique », tente de toucher à cette notion complexe de l'instant, ce présent rendu palpable par le son et que l'on tente par tous les moyens de conserver, de préserver. Un instant de musique que l'on observera au niveau de la composition, de l'interprétation et de l'écoute. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, je vous donne rendez-vous sur le site internet francemusique.fr où vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants.
Si je fais 1, tagaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et son Alain Brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.